C'est vous qui avez volé le repas ?
On l'a pas volé, on l'a jeté à la poubelle.
Vous avez jeté le repas à la poubelle ?
CO2, mon amour.
On a jeté le foie gras, parce que c'est le foie malade et toxique d'un animal qu'on a torturé. On a jeté la côte de bœuf, parce que les bœufs, ils sont piqués aux antibiotiques et aux hormones, et qu'ils mangent que des pilules chimiques. On a jeté le gâteau parce qu'il contient que des sucres, des graisses et des microbes, une vraie usine à caries.
Si vous voulez mourir à 50 ans de sclérose en plaques, de cancer ou de crise cardiaque, c'est votre problème. Mais nous, on mangera plus comme ça, parce qu'on veut pas vivre comme des bêtes malades. On veut vivre longtemps et en bonne santé.
Avec Denis Chessou.
Je suis désolée pour tout ça, excusez-nous.
Bien, je crois que nous avons tous beaucoup apprécié ta petite sortie écologiste. Mais maintenant, nous aimerions bien passer à table, n'est-ce pas ?
Ah non, parce que je viens de jeter les spaghettis à la poubelle.
Sur France Inter.
Voilà, 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 voilà. Bon, donc CO2 Mon Amour, votre magazine de nature et d'environnement. Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous accueillir dans cette histoire à la fois naturaliste, avec beaucoup d'initiatives aujourd'hui. Émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature, avec Théo Gourmand et Théo Goumard, pardon. Oui, non, Gourmand, c'était par rapport à ce qu'on avait entendu avant. Théo Goumard et Kevin Pelot, et assisté de Camille Blanès, c'est Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Avec une petite humeur, bien sûr. Où suis-je ? Où vais-je ? Où vais-je glisser, surtout ? Et dans quel état neige ? Espace infini dans un monde fini, avez-vous donc une âme ? Alors la moitié du nord du pays est devenue une vaste zone humide d'importance internationale. Donc c'est assez idéal, en fait, pour les oiseaux, hein, pour une faune indigène, épuisée, palmée, bottée des chasses. Et donc, zone devenue suffisamment vaste pour abriter l'arrivée des grands vols migratoires venus d'Afrique. Alors les humains, bah oui, les humains, ils canotent à la maison, ils font des bons hommes de neige, ils patinent, loisirs à domicile pour illuminer de soleil le regard des enfants. Plus besoin d'encombrer les routes, non ? On skie à Montmartre, à l'aise sur les pentes du Sacré-Cœur et son télé féerique. La Tour Eiffel, bah vous savez, on la retourne, hein, dans sa boule à neige, souvenir. Et bah là, vous l'avez absolument, grandeur nature. Mais aussi, paix retrouvée pour les petits tétras sur les pentes alpines où une bonne grosse poudreuse assure le couvert. Et alors sur la route cette semaine, bah oui, on l'a vu, plus moyen de bouger, on le sait. 5 cm de blanche, allez, tout est bloqué. Règle de base, plus une société est technicienne, plus elle est fragile. Alors rien n'allait plus à Paname, on sort le gros sel, les chaussettes à pneus, les pompes à crampons et les loboutins à glace. Et alors ? Les chauffeurs de poids lourds de l'Alaska, vous savez, qui défoncent par moins 30 degrés, pieds au plancher, les pistes gelées. Eh ben, ils se tiennent les côtes en visionnant, évidemment, nos malheurs sur tablette. Et les Inuits de Sibérie qui font l'amour comme les punaises, je m'explique, en perçant 6 couches de duvet, hein, eh ben, ils pleurent de bonheur en nous voyant essayer d'atteler les caniches abricots. Et Bill le Cocker au traîneau des commissions sur le parking. Ben, faut dire que le ravitaillement Nutella n'attend pas, hein, c'est une question de survie, bien sûr, en milieu hostile. Et dans le ciel. Et pendant ce temps-là, dans le ciel, au-dessus des nuages. Ah oui, bien au-dessus. On n'est pas à la moitié d'un flocon quand même. Alors, les voyages spatiaux intersidérants ont enregistré leur premier accident du côté de la Voie lactée. Oui, il s'agit d'une Tesla rouge de M. Elon Musk. On a retrouvé le propriétaire avec la plaque. Donc une voiture flambant neuve, percutée par un astéroïde lancé par un soir de folie par un concessionnaire de Corée du Nord qui visait les anneaux olympiques de Saturne. Donc, bah, c'est le truc idiot, vous savez, c'est le refus de priorité, c'est comme ça. Ça s'est passé cette semaine. Eh ben non, il n'y a plus de saison. Mais si, justement, il y a l'hiver. Raide cette année, avec sa dose de froid nécessaire sur l'épaule, hein, pour la vie et les végétaux. Alors, évidemment, elle expliquait le réchauffement climatique en ce moment. Et pourtant, tout est lié. Et pourtant, elle tourne, merci Galilée. Mais aussi, pourtant, elle chauffe notre terre jolie. Alors, je vous rassure, hein, le bon grand beau soleil va revenir nous sécher tout ça avec sa grosse centrale nucléaire naturelle à cramer la peau. On ressortira le plan canicule des tiroirs. Mais d'ici là, on va tenir. Les jours rallongent, les oiseaux chantent, et c'est dans les entrailles terrestres que s'ouvre la nouvelle page blanche des neiges disparues. Il ne nous reste plus qu'à l'écrire. Quatre sujets donc aujourd'hui avec quatre lieux différents. Un hôpital écologique du côté de Voiron à Montpellier. Nous découvrirons l'univers de la chercheuse Claude Grison qui travaille sur les plantes dépolluantes des sols. Une page nature dans la vallée de Lutour, du Lutour dans les Hautes-Pyrénées. Et puis une parole de jeune de 22 ans, Maël Josse, qui est en Master Engineering des déchets au Mans. On va débuter donc aussi par une initiative très intéressante, celle de l'hôpital écologique de Voiron, là qui n'est pas encore sorti, hein, mais c'est intéressant de voir comment ça se passe. Le président d'une association qui s'appelle le Pivert à Voiron dans l'Isère, c'est Jean-François Noblet, qui est un naturaliste depuis très très longtemps, qui a fait toute sa carrière dans ce milieu-là. On est au pied de la Chartreuse. Et ce qui est intéressant, là, Jean-François Noblet, c'est qu'en fait, on est à la fois avec le milieu naturaliste, le milieu médical, bien évidemment, la commune, la communauté de communes. Racontez-nous. Bonjour Jean-François.
Bonjour Denis. Effectivement, les élus locaux et la responsable de l'hôpital, la directrice, ont souhaité nous associer à toute la problématique dès le début. Et donc, par exemple, on est beaucoup intervenu dans le cadre de l'étude d'impact pour que l'emplacement du futur hôpital soit bien calé en matière d'environnement, qu'il y ait des mesures compensatoires sérieuses, et les travaux démarrent. Alors, ça sera un bâtiment à haute performance énergétique, donc avec toutes les techniques modernes d'isolation, de chauffage, de double peau, des parois, c'est-à-dire qu'il y aura possibilité de se protéger contre le froid ou la chaleur extérieure avec un système amovible de double peau. Il y aura une toiture végétalisée, les parkings sont conçus pour ne pas imperméabiliser le sol, les eaux de ruissellement vont être récupérées dans des noues, c'est-à-dire des fossés à ciel ouvert. Toutes les eaux de ruissellement d'ailleurs seront infiltrées ensuite sur le site, il n'y aura pas de rejet extérieur. Et puis il y aura des patios intérieurs pour que la lumière descende du plafond jusqu'au ras du sol. Et l'espace vert sera conçu et étudié pour que ça devienne un élément de plus dans la thérapeutique de l'hôpital. Chacun sait que les espaces verts dans les centres de santé, les maisons de retraite sont extrêmement importants pour rassurer les malades, pour leur assurer un meilleur rythme cardiaque, respiratoire, augmentation des défenses immunitaires, etc., etc. Donc, par exemple, dans cet espace vert, il y aura des caméras vidéo qui vont pouvoir filmer les mangeoires,
les oiseaux.
Des oiseaux qui vont être mis en place sur le secteur, et tout ça va pouvoir être retransmis sur les écrans de télévision dans les chambres des malades.
Jean-François Noblet, on sent bien qu'il y a l'apport naturaliste avec l'association Le Pivert, parce que aujourd'hui, beaucoup de cabinets d'architectes, de bureaux d'études travaillent aussi donc avec des bâtiments donc à énergie positive, HQE, etc. L'apport, ça a été quoi précisément?
Alors par exemple, il était question de couper des arbres, des vieux noyers qui étaient sur place parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Eh bien nous avons décidé de sélectionner certains noyers qui avaient des cavités à l'intérieur. Les arbres ont été couchés doucement, ensuite tronçonnés un petit peu, élagués et conservés, et ils seront replantés dans l'espace vert avec du lierre ou des glycines ou des ampélopsis qui vont monter dessus, de telle sorte à ce que ces nichoirs naturels puissent être conservés. Il y a par exemple sur le terrain une ancienne mare qui a été non seulement conservée mais qui sera restaurée et qui fera partie d'un itinéraire pédagogique tout autour de l'hôpital, avec un verger d'essence de variété locale, avec des plantes médicinales qui vont être semées, etc. Donc, nous, il nous semble que les gens qui viennent voir des malades dans un hôpital, en général, ils stationnent dans la chambre et ils regardent la télé avec le malade. C'est pas génial. Nous, on aimerait bien que les gens emmènent les malades, s'ils peuvent se déplacer un petit peu, sur un itinéraire où on pourra facilement marcher ou même rouler avec un fauteuil roulant.
Jean-François Noblet, comment ça s'est passé en fait, ce mariage, on veut dire, entre une association comme la vôtre et puis ce centre hospitalier de Voiron avec le pays voironnais derrière?
Ça s'est super bien passé et ça économise beaucoup d'argent parce que souvent les bureaux d'études qui connaissent pas le secteur proposent des mesures compensatoires un peu coûteuses et qui sont pas forcément adaptées au secteur. Et donc nous, notre intervention, elle montre que finalement s'occuper de la nature et de la santé des gens, ça va bien ensemble, parce que chacun sait que la plupart des maladies qui nous touchent sont liées aux questions d'environnement, que ce soit aussi bien la qualité de la nourriture, que ce soit les pesticides, la pollution de l'air, le tabac, etc., etc. Eh bien, nos adhérents se mobilisent pour que cet hôpital soit un modèle en matière d'environnement. Mais dans l'avenir, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment ça va fonctionner en matière de déchets, de ressources, d'énergie, de nourriture, avec des circuits courts, de nourriture bio, bien évidemment. Et donc, nous travaillons aujourd'hui en très bonne entente avec les élus locaux et les services de l'État et la direction de l'hôpital pour que cet hôpital soit un modèle.
Action positive donc, merci à vous Jean-François Noblet. Donc nous sommes à Voiron dans le département de l'Isère et donc à suivre, eh bien trois paroles, paroles de laboratoire, paroles de nature et aussi paroles de jeunes dans quelques instants. Paroles de labo avec Claude Grison qui est spécialiste de chimie verte et de plantes dépolluantes.
CO2 Mon Amour avec Denis Chessou sur France Inter.
Driveway, washing his hands of all the guilt and bad things.
Everybody loves to say goodbye. Everybody loves to say goodbye. Everybody loves to say goodbye. Everybody loves.
His eyes and looked at everything he owned and smiled.
Baxter Dury sur France Inter, donc choisi par Muriel Pérez, notre programmatrice. J'espère que vous allez bien, que tout va bien. Enfin, tout va bien, je sais qu'il y a les inondations, hein, ça s'est pas terminé non plus, la neige va fondre, etc. Mais, un petit coup de soleil quand même là qui est là sur la moitié nord aussi, et aussi bien sûr vous partout en France. Alors, notre premier sujet, donc parole de laboratoire avec Claude Grison, qui est donc chercheuse enseignante, qui est directrice du laboratoire de chimie bio inspiré et d'innovation écologique. Nous sommes à Montpellier, donc ça nous intéresse bien. Vous êtes en liaison avec nos amis de France Bleu Montpellier, que l'on remercie, France Bleu Héros. Et donc, Claude Grison, vous mariez en fait la chimie et l'écologie. Quel est en fait l'objet de vos recherches?
Alors, l'objet de nos recherches est un petit peu inhabituel à deux niveaux. Tout d'abord parce qu'effectivement, comme vous l'avez évoqué, on combine écologie et chimie. Donc, deux disciplines qui pour nous sont étroitement liées, contrairement à ce que certains peuvent s'imaginer. Donc, l'objectif global de nos recherches est de trouver des solutions écologiques et naturelles pour remédier, restaurer des sites qui peuvent être impactés par les activités humaines. Donc, on le fait à l'aide de plantes adaptées dans différents contextes, contexte sol, des pollutions des eaux industrielles. Et l'innovation du laboratoire est de montrer que finalement, toutes les plantes utilisées d'un point de vue écologique, qui vont aller dépolluer ces sites, qui sont gorgés de polluants métalliques, ne sont pas des déchets, mais peuvent devenir des outils très utiles pour la chimie, une chimie verte qui s'inscrit dans le développement durable.
Ce qui veut dire, Claude Grison, que tout d'abord, il y a cette activité de dépollution, puis après, plutôt on va dire que d'incinérer de nouveau ces plantes qui vont peut-être relarguer encore ces métaux que vous avez donc réussi à capter, eh bien vous allez en faire quelque chose. Alors, si on part en Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce que vous avez fait ?
Alors, en Nouvelle-Calédonie, on travaille en étroite collaboration avec les opérateurs miniers qui sont présents et actifs sur le territoire. Comme chacun le sait, c'est un site qui est un producteur au niveau mondial de l'extraction du nickel. Et après extraction, après épuisement des ressources exploitables, eh bien, nous travaillons ensemble à la revégétalisation de ces sites miniers à l'aide de plantes endémiques, donc des plantes locales qui n'existent qu'en Nouvelle-Calédonie, qui sont très adaptées à des concentrations métalliques élevées dans le sol. Donc ces plantes sont intéressantes parce qu'elles sont tout d'abord très résistantes, ce sont des plantes grégaires, et en plus, elles se sont adaptées naturellement à des concentrations en manganèse, nickel très élevées. Elles extraient en permanence donc ces éléments métalliques du sol pour les stocker dans leurs feuilles. Donc nous faisons des récoltes de ces litières après revégétalisation et nous montrons eh bien tout ce qu'elles peuvent apporter dans le domaine d'une nouvelle chimie bio-inspirée et complètement verte.
Vous êtes allé bien sûr sur le terrain, vous avez évalué la capacité d'absorption de ces plantes et vous l'avez très bien dit, donc de ces feuilles. Alors là, on se rend pas compte, est-ce que ça va nettoyer complètement un sol qui est gorgé de nickel ou bien ça va être une partie seulement ?
Alors, on cherche pas donc à épuiser le nickel qui est présent dans le sol. C'est l'histoire géologique de la Nouvelle-Calédonie qui introduit ces métaux dans le sol. Ce qui est important en Nouvelle-Calédonie et plus largement en zone tropicale, c'est de réintroduire une végétation de façon durable et définitive pour limiter tout phénomène d'érosion lors des orages, voire des cyclones qui sont assez fréquents sur le territoire, pour éviter le lessivage des sols et des sédiments miniers.
Alors, on parle de Nouvelle-Calédonie, on peut aussi parler du Gard, donc on a eu des sites miniers aussi quand même extrêmement polluants. Comment fait-on Alors quel type de plantes et qu'est-ce qu'elles absorbent?
D'ailleurs, notre projet a démarré dans le Gard, donc à cinquantaine de kilomètres de Montpellier. On a travaillé sur un site pilote qui est aujourd'hui à l'abandon, mais qui a été l'objet d'extractions très importantes de zinc. D'un point de vue chimique, quand il y a du zinc, il y a toujours du cadmium, voire du plomb associé. Ces éléments se retrouvent en concentration très élevée sur ces sites. On a identifié des plantes locales, des plantes qui sont capables, là encore, d'extraire ces métaux du sol. L'idée a été de montrer qu'on pouvait utiliser ces plantes locales pour revégétaliser complètement les sites qui étaient complètement mis à nu parce que les concentrations métalliques sont tellement élevées que donc une plante normale ne pourrait pas survivre sur de tels sols.
Nous sommes sur quel site dans le Gard ?
Dans le Gard, nous avons commencé à travailler à Saint-Laurent-le-Minier, sur le site connu des Avinières. Et puis, notre projet est en train d'évoluer sur l'autre grand site connu, je pense, dans toute la France, le grand site des Malines, qui a fermé relativement peu de temps. Et là, on va s'intéresser à la dépollution des eaux qui sortent des galeries minières, qui est quelque chose qui est tout aussi important, parce que ces eaux sont également gorgées en éléments métalliques.
Alors, c'est intéressant, parce qu'en fait, vous essayez de purifier une eau qui est contaminée, c'est-à-dire que ça peut dépurifier le sol, et ça peut aussi dépurifier les eaux.
Oui, tout à fait. Alors, ce ne sont pas les mêmes plantes, ou les mêmes techniques, mais ça reste des solutions très naturelles, complètement inspirées de la nature, de matériaux d'origine végétale, qui sont vraiment adaptés à ces scénarios.
Claude Grison, première partie, donc on comprend dépollution des sols. Et puis après, vous trouvez, vous, une application pour que ce ne soit pas qu'un déchet contaminé. C'est-à-dire que vous récupérez les métaux qui sont à l'intérieur des feuilles.
Oui, c'était un défi au départ. Ces techniques de réhabilitation naturelle avec ces plantes gorgées de métaux étaient effectivement considérées comme des déchets dangereux, puisque gorgées de métaux. Donc nous avons montré que ce n'était pas une fatalité, au contraire, donc toutes ces feuilles, ces biomasses chargées en éléments métalliques pouvaient être extrêmement intéressantes en chimie. On transforme les feuilles chargées de métaux en outils qu'on appelle des catalyseurs. Donc c'est pas si technique que ça, c'est à prendre vraiment au sens commun du terme quand on parle de quelqu'un qui est catalyseur. Donc il va débloquer une situation un petit peu figée et difficile. En chimie, on a les mêmes besoins. On a besoin de catalyseurs qui vont faire avancer des réactions extrêmement lentes. Et très souvent, ces catalyseurs ont une structure métallique. Donc plutôt que d'aller chercher des minerais qui sont en voie d'épuisement au niveau mondial, eh bien on utilise ces feuilles gorgées de métaux qui se révèlent être de très bons catalyseurs pour la chimie.
Alors cette poudre, on va dire végétale, permet d'avoir le premier catalyseur écologique.
Tout à fait. C'est la première fois qu'un catalyseur chimique métallique est d'origine écologique. C'est vraiment le fruit, le résultat des efforts qu'on fournit en écologie scientifique pour réhabiliter les sites industriels.
Alors ensuite, s'intéresse qui ? S'intéresse la chimie ? S'intéresse les cosmétiques ? Quelles sont les applications ?
Alors, ça intéresse différents secteurs de l'industrie. Effectivement, vous avez cité les cosmétiques. Ça a été notre premier secteur d'application en partenariat avec l'industrie du domaine. Revisiter les grandes molécules utilisées dans les cosmétiques, mais avec un autre regard. Développer des procédés qui sont complètement éco-responsables, qui vont limiter au maximum l'impact sur l'environnement à l'aide de ces catalyseurs d'origine végétale. Le projet est en train d'évoluer avec d'autres partenaires dans l'industrie pharmaceutique notamment, qui a montré un intérêt pour ces techniques. Et puis avec d'autres partenaires industriels qu'on n'avait pas anticipés, mais qui ont ces problèmes de rejet dans l'environnement et qui veulent appréhender le problème différemment, qui veulent répondre aux contraintes réglementaires de façon beaucoup plus écologique, beaucoup plus naturelle et finalement de façon durable.
Ce que vous nous prouvez, c'est qu'on est sur une approche interdisciplinaire et qu'il y avait deux mondes, on va dire, à une époque qui était assez étanche, l'écologie et la chimie. Et aujourd'hui, heureusement, donc, ils se nourrissent l'un l'autre. Mais est-ce que cette chimie verte est encore industrielle ou bien est-ce que c'est encore à la marge ?
Il y a de plus en plus un intérêt pour ces techniques de chimie verte. Donc bien sûr, c'est quand même assez révolutionnaire dans le fonctionnement de l'industrie chimique. Donc il faut savoir patienter un petit peu. On ne peut pas bouleverser des habitudes qui ont plus d'un siècle du jour au lendemain. Tout doucement, de changer les procédés qui tournent et d'aller chercher les meilleures opportunités pour montrer que cette chimie verte peut être non seulement donc respectueuse de l'environnement, mais aussi d'un point de vue économique extrêmement profitable.
On a évoqué le Gard, on a évoqué la Nouvelle-Calédonie, mais aussi du travail en Chine, au Brésil. Là aussi, on a du zinc, on a du cadmium. Que faites-vous avec ces pays-là et même aussi le Gabon ?
Le Gabon est effectivement quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Donc j'y étais il y a quelques années, faire un inventaire écologique sur un site minier, avec là encore la chance d'avoir trouvé des plantes qui s'étaient adaptées.
Je précise que c'est quand même le deuxième producteur minier de manganèse, le Gabon.
Complètement. Donc l'idée à chaque fois, c'est donc d'utiliser les plantes pour réhabiliter les sites miniers, la nature, de valoriser, comme on l'a dit, en chimie verte, donc ces plantes, et c'est de trouver des débouchés qui seraient très intéressants de façon locale. Donc on y travaille et on a des résultats récents qui nous montrent que ceci devrait être possible assez rapidement. Donc je pense que je vais y retourner très prochainement.
Faites-nous s'il vous plaît aussi le rapport entre la santé, la malaria et les travaux que vous effectuez sur ces sites miniers.
Donc on a identifié des plantes qui accumulent le manganèse sur place. Ce sont des plantes locales. Elles concentrent le manganèse que nous transformons en catalyseur. Et donc ce que l'on a montré au laboratoire, c'est que ces catalyseurs pouvaient être extrêmement intéressants pour préparer des molécules qui sont actives contre le paludisme et d'autres qui sont de très bons agents répulsifs de certains moustiques qui sont présents au Gabon. Et ces agents répulsifs, en fait, existent dans la nature, ils sont dépourvus d'écotoxicité. Donc ça pourrait être extrêmement utile de développer toute la filière au Gabon, aller jusqu'à la restauration d'un site, jusqu'à la synthèse d'une molécule d'intérêt contre le paludisme avec les ressources locales.
Votre laboratoire, ce n'est pas neutre du tout. Nous sommes au nord de Montpellier, nous sommes au milieu de start-up. Est-ce que vous aimez, donc, c'est ce mélange entre la chimie, l'écologie, l'économie, et sûrement aussi un côté très, très citoyen, parce qu'on est quand même là aussi dans un intérêt général, un intérêt commun.
Nous souhaitons être des chercheurs citoyens. Nous souhaitons que nos recherches puissent être utiles et très vite transférées dans le milieu industriel à chaque fois que c'est possible. C'est pourquoi il y a ce mélange de recherches qui peuvent être très fondamentales, mais très souvent on essaie de voir l'intérêt que ces recherches peuvent avoir dans le milieu industriel, et le mieux, c'est d'être au milieu de ces deux mondes pour partager les contraintes de la recherche, mais aussi du partenaire industriel, comment appréhender les difficultés qu'il pourrait avoir s'il s'intéresse à nos procédés.
Quand on parle des plantes, là, vous pouvez nous en citer quelques-unes. Non, vous avez bien compris, c'était des plantes endémiques. Ça, vous n'allez pas transvaser des plantes du Gard en Nouvelle-Calédonie, donc réciproquement, ou bien au Gabon. Mais quelles sont-elles ?
Parlons du Gard, parce que l'une d'entre elles est assez connue par son nom, donc c'est Nocea cerulescens, qui appartient à la famille des brassicacées, donc que vous avez un petit peu cité tout à l'heure. Donc chou-fleur, brocoli, pour ceux qui connaissent le mieux ces plantes-là. Et puis une plante associée, qui est une légumineuse qu'on appelle Antilis vulneraria. Alors c'est un scénario unique qu'il y a dans le Gard, sur ce site de Saint-Laurent-de-Migné, une légumineuse capable d'extraire à des concentrations hyper élevées le zinc. C'est remarquable, c'est unique et c'est très intéressant d'un point de vue écologique parce que c'est aussi une légumineuse qui a un fonctionnement plus classique de légumineuse que les gens connaissent très probablement, à savoir qu'elle vit en symbiose avec une bactérie du sol. Et cette bactérie a un rôle fondamental dans tous ces programmes de revégétalisation parce qu'elle est capable de réduire l'azote qui est dans l'air en ammonium, c'est-à-dire en engrais naturel. Voilà une plante qui réenrichit naturellement le sol en azote, qui fait cruellement défaut sur les sites miniers.
Ce que je vous déconseille après, c'est peut-être d'en faire une salade. On ne mélange pas, on va la laisser dans son premier rôle, celle-là.
Effectivement, hein, sa richesse en oligo-éléments est un peu trop élevée.
Merci à vous Claude Grison pour cette parole de laboratoire qui a reçu donc le prix scientifique François Sommer Homme Nature, ça c'était en 2016, voilà. Et dans quelques instants, je pense que vous avez besoin de soleil. On est d'accord, on a tous besoin de soleil là en ce moment. Eh bien je vais vous emmener dans les Hautes-Pyrénées. Ce sera pas la même période, mais dans la vallée de l'Utour, au-dessus de Cotterêts.
M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux. Piqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc, et les Mistral gagnant. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu, et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Ton rire, comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les coco-boères. Et les frères aux doudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va. Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous. Te dire que les méchants c'est pas nous. Que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie, l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants et les Mistral gagnants.
Ça fait 25 ans que j'ai pas vu de campagne. Une jolie petite cabane avec une forêt autour et des sentiers à plus savoir quoi en foutre. J'en manque de chlorophylle. Je suis obligé d'aller au Castorama, rayon jardinage, pour voir un petit peu de verdure. Mais ce qui me manque le plus, moi, c'est la fraîcheur. J'étouffe.
CO2, mon amour.
J'étouffe.
Sur France Inter.
Ah bah on est mieux que le rayon jardinage, nous. Hein. Bah oui, on a la réalité avec des images, des odeurs et des sons.
La balade de Denis Chessou.
On est sur la vallée de Lutour, la fruitière, on appelle plus fréquemment fruitière, mais c'est la vallée de Lutour.
Alors, on a dépassé Cauterets.
On a dépassé Cauterets, au lieu de partir sur Pont d'Espagne, lac de Gaube, la fameuse vallée célèbre du Vignemale, on est parti sur la gauche.
Il y a moins de monde. Ah, il y a moins de monde.
Il y a moins de monde, encore qu'en été, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Mais c'est une vallée qui est limitrophe, donc elle est côté parc national, de l'autre côté zone périphérique. Mais elle est très belle, et puis tu vois, les élus n'aménagent pas partout, puisqu'ils n'ont pas fait une route jusqu'au lac d'Eston, donc c'est encore très très sauvage.
Donc là, on entend ce torrent hein, qui est généreux. Hein, ça va. Alors, bien qu'avec le réchauffement climatique, il faut quand même le dire, là, cet hiver, vous avez eu beaucoup de neige, mais on sait que ça fond très vite, hein, que les glaciers quand même diminuent bien dans les Pyrénées.
Ouais, moi, j'avoue que ça me fait assez mal au cœur. Je les vois, franchement, en 30 ans, là, je les vois disparaître. Quoi, et même au sud du Vignemale, j'y étais quelques temps, là, il y a quelques temps avec mon fils, j'étais stupéfait du recul du glacier des Oulettes. Quoi, hein. Et dans cette région lacustre où nous sommes aujourd'hui, là, de toute la vallée de Lutour, il n'y avait pas véritablement de glacier, puisqu'après les sommets ne font pas tout à fait 3000, mais même il y avait le lac glacé qui est complètement. Maintenant, il n'a plus de glaçons, il n'a plus de ces icebergs qu'il avait il y a quelques années.
De la lumière, celle qui nous a manqué beaucoup, surtout au-dessus de la Loire. Direction sud de la France, les Hautes-Pyrénées, on est dans le parc national des Pyrénées. Alors on a quitté Cauterets, ça vous l'avez compris. On va laisser la vallée du Marcado, le pont d'Espagne, le lac de Gaube, lac fétiche des romantiques où Victor Hugo il avait emmené sa Juliette, hein, je crois que c'était vers 1843, c'était par là. Et nous on va de l'autre côté, on va grimper à la fruitière. Alors c'est à peu près les mêmes termes si vous voulez que dans le Jura, hein, les fruitières, donc c'est le fruit du travail collectif, du lait, etc. On est dans cette vallée de Lutour avec le Gave, donc qui porte le même nom. Alors elle est moins connue, mais elle est superbe. Elle fait 10 km, c'est une jolie vallée nord-sud. Donc il y a quand même ces séries un peu de lacs, on va dire, glaciaires, avec des sapins, des pins sylvestres et des pins à crochets. Alors le pin à crochets, c'est le champion de l'adaptation. Alors, granit sous le pied, des rhododendrons et Christian Rangeval, que vous avez entendu avec sa superbe voix, ancien garde du Parc national des Pyrénées, naturaliste formidable, observateur des hommes, du vivant, des animaux. Vous l'avez compris, j'ai pas tourné ça la semaine dernière. Non, c'était à la fin du printemps. Et c'est notre page nature de CO2, mon amour. Ah, Christian, là sur le chemin, on voit. Alors, j'allais dire une petite grotte, hein, c'est pas exactement ça. Ça a été en fait maçonné par les hommes. Et il y a de l'eau à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est, Christian ?
On pourrait dire que c'est l'ancêtre du frigo. Sur Cauterets, ils appellent ça la cabinère. Ouais. Dans la vallée de Luz, ils appellent ça la lodge.
On dirait un petit puits, en fait, c'était maçonné. Il y a un linteau.
Il y a un linteau de pierre magnifique, qui est large, t'as vu ? Certains spécialistes de la préhistoire, s'il n'y avait pas l'eau, tu dirais, mais c'est une ancienne tombe, tu sais. Il y avait des tombes où on trouvait les gens assis. Et non, ça a été fait uniquement sur la captation de la source. Et c'était drôlement bien fait parce que tu vois, l'eau se conservait là. Tu mettais ton chaudron ou tes badines de lait et ça conservait le lait au frais. Et quand le berger aussi fauchait, tu sais, en plein été, quand il y a les temps et tout, il mettait sa bouteille de rouge là ou sa boisson. C'est mieux qu'un frigo. Hein.
Ah, je mets la tête dedans.
Et puis t'as vu s'il fait frais.
Oh, puis il y a des tétards, on va pas vous embêter trop là, les petits pères. Ah ouais. On va parler de ce fameux isard qui est à vous. Hein. Il est vraiment pyrénéen, celui-là. On ne va pas le trouver donc ailleurs. Qu'est-ce que c'est comme bête ?
Beaucoup de scientifiques le rapprochent plutôt vers une antilope. Il y a des différences morphologiques. Donc l'isard est plus petit, adapté aux Pyrénées. Mais en fait, c'est deux espèces qui pourraient tout à fait cohabiter et se croiser. Quoi. Des fois, le touriste moyen croit qu'on appelle l'isard par chauvinisme. Quoi. Non, l'isard est quand même une sous-espèce, disons. Voilà.
On est dans l'ongulé quand même.
Espèce géographique, parce que si tu dis sous-espèce, il y a des Pyrénéens qui vont se vexer.
Et alors, tout petit, on lui apprend la montée. Hors pair, il n'a pas besoin effectivement de suivre un peloton de haute montagne, il sait monter.
Il sait monter, il suit sa mère, quelques heures après la naissance, il marchotte. C'est vraiment l'isard adapté au milieu montagnard. Quoi.
Il est quand même, là on est à, oui on le voit à peu près à 2000-2200 mètres, c'est ça.
Oui, c'est la zone à peu près qu'il fréquente à cette époque-ci. Alors on n'en voit peut-être pas autant qu'il y a quelques années. Et donc là il y a eu très peu de naissances cette année. C'est pour ça qu'on ne voit pas de grandes chevrées, tu vois, avec beaucoup de petits. Mais c'est la nature, je veux dire, à partir du moment où on ne régule pas, puisque là on observe zone parc, c'est la sélection naturelle, c'est les intempéries l'hiver, le froid, les avalanches et les maladies.
Et alors donc cet isard, il est quand même très convoité parce qu'il est bon, voilà. Alors vous avez fait quand même un boulot au parc tout à fait intéressant parce que à l'ouverture il n'en restait pas tant que ça en 1967 et puis aujourd'hui ça va bien.
Non, l'isard c'était une des réussites du parc, il faut être honnête. Oui, oui. D'abord il n'en serait plus resté, comme tu dis, à part dans des petites réserves. Et ça a été une réussite totale, puisque maintenant, dans la zone parc, on en compte pas loin de 6000, quoi. Et puis surtout, avec les plans de chasse, on a réussi à convaincre les sociétés de chasse de laisser proliférer l'isard hors du parc. Dans le plan de chasse, ça a eu ce mérite. Et puis même nous, on a joué le jeu avec certaines sociétés de chasse. On a lâché des isards, comme ici, dans le prolongement de la réserve du Pibest, dans le massif du Grand Quai. Ça a marché, ça vient de se renouveler récemment en Vallée d'Or.
Alors on va parler aussi d'un autre animal, celui-là évidemment on ne le verra sûrement pas. Je me souviens d'une fois on avait fait un affût au tétras, et là il faut dire que c'est le grand tétras. Racontez-nous quand même le chant du tétras quand il est amoureux, c'est à quelle période d'abord?
Il faut reconnaître une chose, le tétras c'est l'oiseau le plus fantastique au point de vue exubérance par rapport justement à ce chant de printemps, le chant des amours. Il n'y a pas un autre oiseau en Europe qui se déchaîne comme lui au printemps. Et ce qui est extraordinaire, donc, c'est voir cet oiseau qu'on ne voit pratiquement pas en dehors de cette période, dont la période de chant, c'est le mois de mai, avril-mai, suivant les altitudes. C'est ce paroxysme qu'il a quoi, dans son chant. Alors le chant n'est pas très mélodieux, mais bizarre, espèce de cisaillement. Les Autrichiens imitaient un peu le chant du coq en affûtant, tu vois, comme quand tu affûtes une faux à faucher les prés. La poule répond, bon, un petit peu comme une poule domestique. Les coqs se narguent entre eux par des sauts sur place, mais impressionnant, vu que le volatile fait quand même dans les 3,5 kg, 4 kg, tu vois un peu le battement d'ailes, ce que ça peut donner.
C'est pas un grand voilier, celui-là, on peut pas dire.
Du tout, il est lourd, c'est un galinacé,
c'est
il est lourd.
Poule, hein, voilà, oui. C'est...
Et donc, quand il y a beaucoup d'oiseaux, cette compétition est assez extraordinaire à vivre. Si tu es à l'affût, bon, on se met à l'affût, on bouge plus, on essaie de photographier ou observer. Parce que son chant n'étant pas tellement puissant, en fait, il faut qu'il chante pour attirer les poules avant tout le bruit des oiseaux de la forêt. Et donc, il est coincé par ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'après, il ne va pas chanter en plein jour s'il voit une poule, un truc comme ça, mais le chant principal doit se passer avant les autres.
Okay.
Et voilà ce qui explique pourquoi il attaque si tôt.
Alors, c'est quand même une relique glaciaire, hein, c'est-à-dire...
Ah oui, le tétras, le grand tétras,
comme le lagopède.
De Bruyère, comme le lagopède, est une relique des époques glaciaires. Alors, on a un souci à se faire, à mon avis, on cherche les causes de disparition. Peut-être qu'on a un souci à se faire,
réchauffement
climatique. On en revient.
Donc, il monte, puis à un moment, il ne peut plus monter.
Et puis voilà, alors, soit les milieux vont changer, la forêt va monter un peu plus en altitude, mais aura-t-il suffisamment de conditions favorables à sa survie? Je ne sais pas, c'est difficile à évaluer.
Ah, une grange d'altitude, avec quand même la caractéristique de l'architecture. Là, il n'y en a pas beaucoup, mais quand même un petit peu.
La porte, tu vois, à double battant, qui...
Oui.
Si tu laissais tes bêtes l'hiver, il fallait à tout prix que tu puisses rentrer avec la neige.
Des
fois, les gens ne comprennent pas pourquoi tu as deux battants. En fait, tu viens là, il y a de la neige, tu pousses ton premier battant,
hop,
et tu arrives à pénétrer dans la grange.
Ah, ben ça sent bon le foin. Voilà.
Et au fond, tu avais souvent ce qu'on appelle le cul-bouche en haut. Enfin, suivant les vallées, là, sur Côterie, ils appelaient le cul-bouche, c'est-à-dire une porte qui, elle, s'ouvre entièrement pour pouvoir rentrer ton foin, en arrivant par le sol, si tu veux, à niveau de l'étage. Pour pas être obligé de monter tout ton foin, parce qu'à l'époque, c'était le foin en vrac, c'était pas les balles comme on trouve maintenant.
Allez, on va quitter cette
surtout grange. La double porte pour, justement, rentrer par le haut. Hop là. Voilà, on referme en quatre.
Oui. Christian, là on voit des châtaigniers qui bien sûr ont été plantés par les anciens et qui avaient leur signification parce que c'était l'arbre à pain et qu'il fallait manger. Quoi.
Oui, alors dans les Pyrénées c'était pas fréquent. Tu vois. J'ai réalisé quand j'ai passé des vacances en Corse et puis que les Corses m'expliquaient que ça a sauvé la Corse de la famine. Hein.
Et la Cévenne aussi.
Cévenne aussi. Et alors ici c'était peu pratiqué en fait, mais quand même tu en trouves un peu dans la vallée d'Argelès, en Béarn, etc. Et je trouve que c'est une idée qu'il aurait fallu reprendre. Si chaque génération après d'hommes avait continué à planter, mais ça servirait même aux ours à l'automne, ne serait-ce que pour récupérer de la graisse, ils ont besoin de graisse pour passer l'hiver. Tu vois ? Donc c'est des choses, on dirait qu'on n'y a pas pensé à ça.
Mais on sent qu'il y a des maillons, peut-être qui n'existent plus aujourd'hui ici, des maillons écologiques.
Moi c'est l'impression que ça me fait, parce que je ne suis pas scientifique, mais tu sais que j'ai une bergerie là, dans la vallée de Côteret. À partir du moment où j'ai vu un jour à ma grange cette surpopulation d'insectes, j'ai réalisé derrière qu'il y avait surpopulation de lézards. Et ces lézards, ils arrivaient même à détruire les joints anciens qu'avaient fait les vieux en terre et de la chaux, quoi. Et ça m'a un peu affolé, parce que ça, je l'ai découvert en 2000, et puis ça s'exagère chaque année. Alors, il y avait beaucoup de couleuvres quand j'avais acheté cette grange. Là, on voit un manque de couleuvres. Les milieux se fermant, on voit un manque de faucons cresserelles. J'ai presque plus d'oiseaux nocturnes. alors qu'à une époque j'en avais, et tout ça, ça m'inquiète, quoi. Pourtant, les nocturnes, ils devraient rester là, puisqu'il y a la forêt qui s'est agrandie. Et tu vois, on dirait comme ça que, par, suivant les années, il manque des maillons.
Et puis, bien sûr, il y a cette eau qui est en train de chanter, de cascader, de remplir les lacs, mais qui, elle, ne produit pas d'électricité, Christian, ici.
Ah non, ici, sur Cauterets, c'est flagrant que c'est une des rares vallées en France où les habitants, les élus, se sont opposés à la captation des eaux par EDF. Et ils ont préféré choisir carrément le parc national en se disant c'est le seul moyen pour nous de préserver les eaux. Et c'est ce qui fait que quand on monte au pont d'Espagne, on voit toutes ces cascades, Boussès, la cascade du Cerisé, etc., avec des débits hyper importants.
Qu'est-ce qui vous bluffe dans cette nature, vous, ici, quand vous la voyez faire?
On ne peut pas comparer les Alpes et les Pyrénées. Moi, j'ai toujours été en admiration de tous ces glaciers, par exemple à Chamonix, quand j'ai découvert Chamonix, quand j'étais jeune, que je faisais de l'alpinisme. Mais il m'a toujours manqué ce que Russell appelait les yeux d'émeraude, quoi. C'est cette série de lacs, quand tu es en haut d'une montagne, et que tu vois cette série de lacs de différentes couleurs, je trouve que ça, c'est pratiquement unique aux Pyrénées, quoi. Et tu le vis aussi, ça, vraiment, quand tu es dans la réserve du Néouvielle aussi. Tu es en haut du Néouvielle, et tu as ces centaines de lacs qui miroitent, là, avec des éclairages différents. C'est un côté, je trouve, très poétique et magnifique.
Un homme qui parle en l'image, vous avez compris, donc Christian Ringeval, qui vit véritablement ces lieux. Nous étions dans les Hautes-Pyrénées, dans la vallée de Lutour, et ça, vous la découvrirez. En ce moment, vous pouvez y aller en raquette, hein, mais sinon un peu plus tard, ça va se dégager assez vite. En plus, le printemps en montagne, on le sait, c'est bien plus tard, il n'attend pas le 21 mars, non, c'est bien plus tard, c'est au mois de mai, quoi, très 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 souvent, peut-être un peu plus tôt dans les Hautes-Pyrénées. Avec donc Christian Ringeval. Nous avons encore des paroles, mais ça va être une parole de jeune après cette parole de nature. Mais auparavant, les messages 01 56 40 40 35.
Bonjour, j'appelle de Corrèze, en plein cœur du parc naturel régional de Mille Vaches, un endroit magnifique et paisible, riche en espèces protégées, mais menacé par l'usine de production de pellets torréfiés que la société Sumival et sa filiale CIBV veulent installer à Vian. Il s'agit d'extraire, transporter, broyer et torréfier du bois vert pour produire un substitut de charbon. En fait, il s'agit de surfer sur la vague énergie verte pour profiter des subventions encourageant la biomasse forestière, alors qu'on dénonce de plus en plus ses méfaits en termes de bilan carbone et de durabilité. Ici, les 100 000 tonnes de biomasse par an proviendraient de petits bois de feuillus principalement, indispensables à la biodiversité, de souches et rémanents forestiers ensuite, ce qui provoquerait une grave stérilisation des sols tout en encourageant la coupe rase, alors qu'aujourd'hui on essaie plutôt de changer de pratique. Tout cela serait prélevé à 80 km à la ronde, c'est-à-dire sur à peu près 800 communes, et non pas seulement à Vian où s'est tenue l'enquête publique. Nous craignons aussi le prélèvement d'eau dans une petite rivière de première catégorie, des émissions de particules fines et des nuisances sonores, visuelles et olfactives. L'association Non à la montagne Pelée s'est créée pour lutter contre ce projet d'usine qui sert uniquement des intérêts financiers. Pour plus d'informations, www.nonalamontagnepelee.fr. Merci.
Merci à vous. Donc, pellets, comme les fameux pellets dont on se sert pour se chauffer. Et ouais, c'est toujours les problèmes aussi locaux. Et c'était aussi une petite parole d'association. Je voulais remercier Rémi Quincé qui avait donc mixé ce reportage aussi sur les Hautes-Pyrénées avec Christian Ringeval. Et bien sûr, qui a été réalisé parce que l'homme qui a choisi les musiques, qui a colorié, comme je dis souvent, donc ce reportage, c'est bien sûr Xavier Pestugia.
Parole de jeune.
Avec Maël Joss, 22 ans, à l'Université du Mans. Eh ben, Maël Joss, vous êtes en Master 2. Alors, Master 2 de quoi? C'est le MIDEC. Qu'est-ce que c'est que le MIDEC? Ça veut dire Management en Ingénierie des Déchets, Économie Circulaire. Et puis, vous êtes aussi membre de l'association Univers. Alors, bonjour à vous. Et donc, Maël Joss, vos études, en quoi consistent-elles?
Bonjour Denis. Alors les études, ça consiste en l'étude de tout ce qui est gestion des déchets, que ce soit sur le territoire français avec les collectivités ou les entreprises privées ou les associations. Et ça consiste aussi peut-être d'étudier aussi la gestion des déchets dans les pays en voie de développement, donc les pays dits du Sud, pour éventuellement amener à travailler en partenariat avec eux pour amener des bonnes solutions pour eux et en fonction du contexte local. On a aussi eu toute une partie sur les déchets post-catastrophe, mais sinon c'est surtout sur la gestion des déchets au quotidien et du coup tout ce qui peut être fait pour les gérer, mais aussi pour prévenir, pour diminuer et réduire donc cette production de déchets, donc tout ce qui est en amont de la production même de déchets, car le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas, bien sûr.
Et donc c'est vraiment donc, voilà. Ça quoi, le but aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'est plus maintenant comme on était autrefois, c'est-à-dire dans l'incinération, même si c'est encore très important, dans les décharges, même si c'est encore très important encore aujourd'hui, mais c'est vraiment de s'intéresser à ce déchet pour qu'il devienne quand même une ressource.
C'est ça, on essaye de trouver des alternatives, d'où le nouvel intitulé du master, donc MIDEC, avec la partie économie circulaire, qui est vraiment une nouvelle partie de cette gestion des déchets, où on essaye de trouver de nouvelles solutions pour mieux valoriser ce déchet et que ce ne soit plus un déchet en soi, mais une matière première en fait. Et c'est ce qu'on appelle les matières premières secondaires.
Alors Maëlle, avant de faire ce master, qu'avez-vous fait ? Vous avez fait un bac ?
Alors j'ai fait un bac scientifique option SVT et du coup après je me suis dirigé vers un DUT génie biologique option génie d'environnement. J'ai poursuivi avec une licence professionnelle génie de l'environnement et du développement durable, donc que j'ai fait à Caen. Et l'année passée, j'ai réalisé une première année de master à Montpellier, master biologie agrosciences, et c'était le parcours sciences et procédés en agro-ressources pour l'alimentation et l'environnement. Bon, ça m'a pas trop plu, c'est pas trop ce que j'attendais, ouais. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dirigé vers ce master, donc MIDEC, en deuxième année, et c'est vrai que là, je m'y retrouve vraiment dans tout ce qui est gestion des déchets.
Monsieur Pierre,
oui.
Je voudrais vous demander quelque chose.
Qu'est-ce qu'il y a encore, Josette ?
Je voudrais garder les coquilles d'huîtres. C'est pour faire des cendriers.
Oh, mais bien sûr, Josette. Je vous les donne. Mais tiens, tenez, Josette. C'est mon cadeau de Noël.
Oh, c'est vrai, Monsieur Pierre. Pas des temps, ça fait drôlement plaisir.
Vous savez, Josette, c'est rien. Quand on peut faire plaisir, puis ça débarrasse.
Qu'est-ce qui vous intéresse ? Comment un jeune s'intéresse aux déchets ? Parce qu'évidemment, c'est la résultante de notre merveilleuse société gaspilleuse de consommation dans tous les sens. Enfin, quels ont été les moteurs ?
Déjà, c'est une petite fibre, on va dire, environnementale et écologique, de gestion au quotidien, de petits gestes qui m'ont été transmis donc, par l'éducation de toute ma famille. Et après, c'est aussi le fait d'être choqué par cette société de surconsommation. J'ai pu réaliser pas mal de visites, notamment durant mes stages, où j'ai vu des montagnes de déchets, des produits alimentaires qui étaient encore consommables, qui n'étaient même pas périmés et qui allaient directement être détruits. Et du coup, c'est vrai que c'est choquant, c'est marquant. Et dans la société dans laquelle on vit, si on a envie que demain, nos enfants ou les générations futures puissent vivre correctement, aisément, dans un monde sain, on va dire, j'ai eu envie de m'investir dans ce domaine pour pouvoir faire évoluer les choses et changer les choses.
La rudologie, c'est donc la science des déchets, hein, ça vient de rudus, je crois, donc en ça. Latin. Ça touche à l'agroécologie, ça touche à la santé, à la pollution, enfin ça touche à beaucoup de thèmes. Hein.
Les déchets, on les retrouve dans tout. Donc par exemple, cette année, on a une collègue du master qui est en alternance chez, je vais les citer, Bouygues, construction, et du coup, elle travaille sur les déchets de construction. Donc ça rejoint tout ce qui est habitat, construction. Après, ça peut donc bien sûr rejoindre donc l'agriculture, avec tous les déchets produits au champ, qui sont les premiers à limiter, on va dire, parce que c'est du gaspillage alimentaire dès la production dans les champs. Oui. Ça touche le milieu de la santé, avec les déchets qui sont produits dans les hôpitaux. Peu importe ce qu'on fait, en fait, on va générer à un moment ou un autre un déchet, et le but, c'est d'essayer de faire en sorte que ce ne soit pas un déchet, et que ce soit plutôt une matière première ou quelque chose qui va resservir, en fait.
Mais il faut redonner aussi une vie à ces déchets, et c'est jamais très simple.
En fait, le monde des déchets, c'est un monde qui est en perpétuel renouvellement, en fait, tous les jours. On se pose de nouvelles questions, ça évolue et petit à petit on trouve des solutions et c'est ça qui est génial. Donc pour en citer quelques exemples, on peut faire pousser des champignons sur le marc de café, ça se fait de plus en plus. On peut faire de la bière à partir de pain dur qu'on va faire griller au four et ça amène un petit goût à la bière.
Avec ces trous, cet immense trou, qu'est-ce que je fais ? Une décharge pour les ordures. Attention, des ordures nobles. Des déchets d'une toxicité mortelle. 100, 200, 1000 ans, on ne sait pas encore. Horreur, terreur.
L'avenir du déchet, qu'est-ce que c'est pour vous ? Alors, il y a deux choses. Ça peut être l'avenir idéal, et puis après, l'avenir, on va dire, un peu plus pragmatique.
L'avenir idéal, ce serait de plus produire de déchets ultimes, donc de déchets qu'on va incinérer ou qu'on va enfouir. On va produire uniquement des déchets qui vont être revalorisés derrière. Donc parce qu'on va toujours continuer à produire des épluchures quand on va faire notre soupe ou qu'on va faire nos patates à la poêle.
Mais
et du coup, on va les composter et on va pouvoir les redonner à la terre.
Maëlle, vous appartenez aussi à une association qui s'appelle UNIV, comme université, UNIV Vert. Qu'est-ce que vous faites les uns les autres? Vous regroupez qui?
C'est l'ensemble de la promotion de cette année de Master 2, donc MIDEC, qui a eu envie de faire changer les choses, évoluer les choses sur, dans un premier temps, notre campus universitaire, car nous menons un projet, notamment donc, le projet Campus Zéro Déchet sur l'Université du Mans, mais nous avons aussi réalisé ce projet à l'antenne de Laval. On se veut aussi toucher éventuellement toutes les personnes volontaires et qui veulent s'investir donc dans cette changement de mentalité, changement de mode de consommation et en fait favoriser le développement durable, l'écologie, l'environnement dans tous les domaines que ça touche. Donc certes la gestion des déchets qui est notre fonds de commerce entre guillemets au vu de notre formation, mais ça peut toucher à tout. Donc ça peut toucher à l'environnement pur et dur, donc les oiseaux, les fleurs, etc. Créer des jardins partagés.
Comment ça se passe auprès des copines et des copains lorsque vous parlez de cela? Je parle pas des gens de votre promotion, mais à l'extérieur.
Comment dire, ils trouvent ça positif, mais ils trouvent qu'on a du courage en fait de faire ça parce que eux au quotidien ils auraient pas forcément la volonté de faire certaines choses que nous on fait parce que ça demande quand même quelques efforts de faire des actes pour réduire la production de déchets ou pour limiter la consommation d'eau. Ça demande certains efforts que d'autres ne sont pas forcément prêts à faire aussi facilement que nous. J'espère que ça leur donne envie aussi eux de réaliser quelques actes au quotidien pour l'environnement
au sens large. Que va-t-il se passer le 21 février au Village des Alternatives?
Nous organisons donc un grand événement, le Village des Alternatives, donc à Ève, au campus de l'Université du Mans. Et donc on va accueillir l'ensemble des associations du Mans qui sont dans le réemploi, la réutilisation, la réparation. Donc, et le but, c'est qu'elles nous présentent en fait toutes les alternatives possible et qu'elles mettent en place pour réparer, réutiliser, réemployer nos éventuels déchets pour éviter de reconsommer de nouveaux produits et rentrer dans ce système de surconsommation qui pousse toujours à plus consommer, plus jeter, plus détruire et qui est un petit peu aberrant, je trouve. Et après, alors lors de cet événement, le Village des Alternatives, certes, il y aura des alternatives donc sur cette société de surconsommation, la gestion des déchets, mais pas que, parce qu'on se veut donc univers vocation au développement durable et écologie au sens large. Du coup, on accueillera aussi, par exemple, Sartre Nature Environnement ou d'autres associations de jardins partagés, l'épicerie solidaire.
Combien êtes-vous de jeunes dans cette promotion?
Dans cette promotion, on est 15 jeunes, donc avec des parcours très différents et des âges très différents. Donc moi, je suis le plus jeune, j'ai 22 ans, mais le plus vieux a 33 ans.
Oh là, très très vieux.
Donc c'est un ancien prof de musique qui était originaire donc de Paris et qui a tout claqué du jour au lendemain. Et en voyant l'ensemble des déchets répandus dans les fossés ou les décharges à ciel libre dans des pays étrangers, qui a décidé de reprendre ses études à 33 ans et qui a eu beaucoup de courage, je trouve. Et après, on vient tous d'origines différentes, d'horizons différents. Il y en a qui ont fait de la sociologie, d'autres qui ont fait de la géographie, d'autres qui ont plutôt un cursus scientifique, donc comme moi, par exemple.
Bon, tu mets, qu'est-ce que tu fous?
C'est vous, putain, qu'est-ce que vous faites?
Tiens, déjà, elle est pas en cloche, hein.
Qui ça?
Adjani.
Elle bouffe des raviolis, Adjani? Mais pourquoi vous fouillez dans ses poubelles?
Elle a un nouveau mec, tiens. Vérifie ça.
C'est quoi ça?
Des médicaments, on sait jamais, elle a peut-être un truc.
En tout cas, le sida, elle l'avait pas. Malox?
L'acidité, le grand estomac, c'est le stress, ça les bouffe tous.
Comment vous réagissez lorsque vous savez que quand même beaucoup de pays occidentaux envoient leurs déchets dans des pays qui sont pauvres avec toute la pollution qu'il y a derrière?
Moi, je trouve ça aberrant à titre personnel et notamment, par exemple, c'est un exemple qui vient tout de suite là en tête. Au Bangladesh, par exemple, les démantèlements de grands bateaux de fret à même les plages directement avec toute la pollution que ça engendre derrière, les ouvriers qui travaillent dans des conditions de travail hallucinantes. Donc déjà, limitons la production dans un premier temps et ensuite essayons de trouver les solutions, de les valoriser le mieux possible sur notre territoire et en créant de l'emploi en France, bien sûr.
Après, ça va être quoi? Vous allez pouvoir être, je sais pas, engagé par des collectivités, entreprises, bureaux d'études, associations?
Tout ça à la fois, mais on peut aussi partir donc dans les pays étrangers donc pour les aider à se développer avec le contexte local. Donc par exemple, moi là, je m'en vais au mois de mars au Pérou, à Lima, avec un collègue du master, donc Adrien Leclerc, qui est le président de l'association UNIV Vert. Et on s'en va donc au Pérou pour essayer de faire changer les choses et pour que eux ne fassent pas les mêmes erreurs que nous. Et après, oui, on peut bosser donc dans des associations, dans les collectivités locales et également aussi dans des grands groupes internationaux.
Grand merci Maëlle, à bientôt.
Merci Denis, et juste si tu peux me le permettre, j'aimerais aussi remercier et associer donc l'ensemble de ma promotion donc du Master MIDEC et en particulier Julien Davoigneau qui est mon collègue chargé de com et qui m'a épaulé tout au long de cette année. Ainsi que ma famille, bien sûr.
Ils sont un peu écolos quand même, d'après ce que j'ai compris.
Ouais, c'est ça, c'est eux qui m'ont transmis cette petite fibre et toute l'éducation. Les grands-parents, les oncles et tantes, les cousins, tout le monde.
Merci Maël, à bientôt. Salut.
Merci Denis, salut.
Ils sont pas mal aux jeunes hein, quand même. Mais oui, puis aussi grand merci à France Bleu Maine qui a hébergé Maël durant cette interview. Merci à Théo Gomard et Kevin Pelot à la technique aujourd'hui, à Camille Blanès, notre assistante, et Xavier Pestugia qui a réalisé l'émission, Anne Gouzon donc qui nourrit les sites, Muriel Pérez qui a choisi les disques et la semaine prochaine. Eh ben, on va changer de registre. On va s'intéresser à votre maison. Rénovons notre maison. On va faire un petit peu le point, donc avec énergéticien. Je vais faire un petit reportage en Lozère sur le chanvre. Nous allons avoir aussi donc faire le point aussi sur les aides que l'on peut obtenir, parce que comme ça a beaucoup bougé donc ces derniers temps. À quoi on a droit? On va faire le point avec les gens de l'ADEME. Donc, alors là aussi, d'ailleurs, si vous souhaitez intervenir, 01 56 40 40 35, 01 56 40 40 35. Et aussi, d'ailleurs, pour Parole de Jeunes, hein, vos actions nous intéressent, vos études également. Donc, ne vous gênez pas, 01 56 40 40 35, ou bien le mail, hein, sur CO2 Mon Amour. Il y a marqué nous écrire. Le nous, bah, c'est, je reçois les messages et tout va bien. Je vous signale qu'à 20h ce soir, j'avais reçu Isabelle Delannoy avec son économie symbiotique. Bah, dans Ushuaïa Télé, le mag, bah, je la reçois. C'est vrai, donc ce sera à 20h. Et puis la tuile du Mont-Petit-Loup, vous en avez l'habitude, ce sera demain à 19h54.